Merci pour ce préambule et ce compliment initial qui me fait rougir. Alors, je vais vous raconter une histoire qui s'est un peu dans le prolongement de ce qu'avait déjà fait Georges Cosnier quand il avait parlé de l'éclairage avec les lampes à huile et les réverbères à cordes, qui sont quelque chose de bien connu à Saint-Antonin. J'en ferai une petite liaison entre ce travail initial et ce que j'ai, ce que je propose après. Donc, pour commencer, donc je reviens sur les textes de la Genèse. Je ne sais pas si le maire de l'époque, Paul Capin, a vraiment prononcé cette phrase, mais en tout cas, ça revient au même. Et donc, nous allons raconter l'histoire qui va nous mener de la fin du 19e siècle, en gros jusqu'à 1950-55, qui est la dernière délibération municipale que j'ai engrangée donc dans les cahiers qui les conservent, et je vais essayer aussi de ne pas vous noyer sous la technique, parce que là c'est le but de tout ça, c'est plutôt de raconter une histoire de ville plutôt qu'une histoire effectivement de courant électrique avec telle ou telle particularité. Alors, dans le plan de la conférence, il va y avoir donc d'abord une première partie, un petit rappel d'où venons-nous, qui fait le lien avec l'éclairage à huile, et puis qui va peut-être vous faire découvrir quelque chose qui est très peu connu, c'est tout d'un coup des propositions d'éclairage au gaz qui ont été faites à la ville de Saint-Antonin et qui ont été étudiées, mais non retenu, et là on est juste avant 1900. Ensuite, deuxième partie, le contexte, comme d'habitude, qu'est-ce que c'est que l'électricité en France à cette époque-là? Donc un engouement qui passe aussi beaucoup par les expositions, l'exposition universelle, et d'autres manifestations. En même temps, donc plusieurs villes commencent à s'équiper, et on est dans l'effet boule de neige. Comme d'habitude, on ne cherche pas à être le premier, mais quand les autres l'ont fait, on peut prendre le même train. Troisième partie, l'électricité à Saint-Antonin. Donc, en 1900, le maire Paul Capin décide du passage à l'éclairage électrique, et on va avoir un dossier qui va se dérouler de 1900 à 1950, avec, vous verrez, de façon récurrente, des évolutions dans tous les sens, des contentieux permanents, ça se termine par un point qui commence à chatouiller les habitants de la commune. Quand est-ce qu'on met le courant électrique dans les hameaux, dans les écarts, hein, parce que c'est bien beau d'éclairer le bourg, mais et nous, comme disent les gens qui sont autour de Saint-Antonin, et donc ça va être une histoire qui est d'ailleurs aussi la même en France. Sachez que on a mis quand même très très longtemps à éclairer entièrement à l'électricité, donc tous ces hameaux. Et enfin, je terminerai en conclusion par quelques éclairages sur les enjeux actuels, parce que en fait, on s'aperçoit que l'électricité et l'éclairage restent toujours un problème, mais enfin, il y a de quoi discuter sur la façon de faire, et donc ce sera une manière de terminer. L'image qui est là, vous ne pouvez pas voir les légendes, c'est un voltmètre qui est exposé à Électropolis. Électropolis à Mulhouse, c'est le musée de l'électricité. Et ce voltmètre, le même, a été maintes fois réclamé par le conseil municipal, parce qu'effectivement, les 110 volts, ils étaient là de temps en temps. Hein, le voltmètre, il était plutôt en bas qu'en haut, et donc ça fait partie des contentieux. Quand est-ce qu'on aura un appareil qui nous dit réellement la qualité du courant électrique qui nous est fourni par le concessionnaire. Les sources pour cette étude, alors tout d'abord, pour revenir sur ce qui se passe en France et en Europe sur les premiers développements d'éclairage électrique, bon, là le retour c'est la presse d'époque, hein, donc ça manque pas les informations. Et ensuite, pour la lampe à huile et la lampe à pétrole à Saint-Antonin, je rappelle qu'il y a eu deux articles parus dans le bulletin des Amis du Vieux Saint-Antonin, donc un article de Claude Saint-Martin en 1990, au temps des lampes à huile, et un article fait par Georges Cosnier, donc dans le bulletin de l'année dernière, auquel j'ai ajouté un certain nombre de délibérations municipales qui touchaient justement ces éclairages, les réverbères de la ville. Pour le XXe siècle, j'ai pu accéder à un dossier qui est un carton numéro 104 qui était à la... Le 104, il y avait un carton sur l'énergie que m'avait signalé Georges. Je l'ai exploité quasiment, j'ai tout avalé avec mon appareil photo. J'ai bien fait parce que 15 jours après, ce carton est parti à Montauban, comme toutes les archives municipales, jusqu'à 1980. Donc, y compris les cahiers des délibérations municipales ne sont plus stockés à la mairie. Je trouve ça assez étonnant. Mais enfin, bon... C'est juste une réflexion. C'est un peu comme si les albums photos d'une famille s'en allaient et qu'on ne les garde plus, on les garde plus chez soi. J'ai donc aussi, outre le carton 104, j'ai aussi étudié toutes les délibérations municipales, Saint-Antonin et Fenerols. Alors, pourquoi les deux? Parce que tout simplement, je travaille en même temps sur l'histoire de Rodolos. Et j'avais déjà été voir ce qu'il y avait dans les archives municipales de Fenerols sur Pierre Rodolos, qui était de Carandier, donc à Fenerols, pour voir si on parlait de lui. Et du coup, j'avais engrangé déjà énormément de documents sur le développement économique, le développement des techniques, le télégraphe, la bascule publique, le téléphone, etc., etc., etc. Donc, même chose. Même chose avec avec Saint-Antonin. Pour m'indiquer le matériau, si je regarde les photos, puisque quand je photographie pour gagner du temps, hein, je m'amuse pas à recopier tout de suite, j'ai 500 photos qui ont été faites sur cette histoire d'archives municipales touchant au développement technique et au développement économique. Depuis 1848 quasiment jusqu'à 1960. Enfin, pour Fontalès, qui joue un rôle important, donc la famille Lamotte a eu la gentillesse d'abord de me refaire visiter les lieux, puis ensuite de me fournir un certain nombre d'informations qui sont des archives familiales, puisque Madame Lamotte est une descendante du monsieur Dumas que vous avez vu tout à l'heure, qui sera le premier concessionnaire de l'électricité à Saint-Antonin. Enfin, de façon plus transversale, les abécédaires de Michel Ferrer ont beaucoup d'informations qui sont évidemment dispersées, donc je les ai aussi engrangées pour être sûr de rien laisser de côté. Alors vous avez sur l'écran deux images qui s'opposent. Vous avez en bas, à gauche, vous avez le réverbère à cordes qui était représenté à Paris par un dessinateur qui a beaucoup fait sur la modernité, qui s'appelle Robida, qu'on trouve bien sur Internet. Et puis vous avez en haut à droite, vous avez une représentation sur les petites vignettes publicitaires qu'on mettait dans les paquets de chocolat ou autres cadeaux, une chromolithographie qui représente l'exposition universelle et le palais de l'électricité qui a en 1889 a fortement impressionné évidemment tous les visiteurs. Donc alors d'où venons-nous? Je ne vais pas vous refaire toute l'histoire des lampes à huile. Je vous ai cité les deux articles qui font le point et on est quand même dans un éclairage alors à la fois de qualité, de puissance très moyenne, et vous avez en haut à droite, alors tout ça sera mis en communication parce qu'évidemment vous ne pouvez pas le lire, j'ai prévu de faire un dossier documentaire où tous ces documents seront mis à disposition avec une organisation qui permet après de revenir sur tous les documents que je vais vous montrer mais qui effectivement ne peuvent pas être vus dans une conférence, mais qui pourraient être relus si ça vous intéresse. Vous avez en haut à droite, vous avez la liste des réverbères à cordes qui sont dans la ville en 1864, et il y a un petit paragraphe qui dit qu'on va en ajouter quatre, donc deux au Bessarel. Donc on est vraiment dans un éclairage qu'il faut imaginer plutôt modeste, hein, donc pour parler autrement. Donc on vient donc de cette histoire d'éclairage à huile, d'abord les lampes à huile, ensuite les lampes à pétrole. Et c'est pour aussi pour la petite histoire, parce que je pense que ça on l'avait jamais vu. Il y a comme ça n'exclut pas d'être moderne. Et en 1843, Saint-Antonin a adopté une invention qui s'appelle le système Pradal. Donc ils ont acheté donc à Monsieur Pradal à Paris, ils ont acheté donc tout un système de nouveaux réverbères dont les particularités sont de consommer beaucoup moins d'huile, 1 centilitre par heure, donc le système est beaucoup plus économique que ça n'était avant, et surtout, ce sont des réverbères capables d'éclairer dans plusieurs directions. Hein. Et vous avez un petit dessin, un bout de plan de ville. Alors j'ai pas pu coïncider le plan actuel avec ça, parce que ça a beaucoup bougé quand même, les constructions à Saint-Antonin, mais l'idée, c'est de montrer qu'avec à ce carrefour-là, avec un réverbère, on va pouvoir éclairer la place et les différents trucs qui s'embrayent donc dans Saint-Antonin. Donc il y a une modernité. Bon, bien entendu, ça c'est pas la révolution, mais ça continue. Et puis pour cet éclairage à huile, les lampes à huile, il y en a beaucoup plus qu'au début. Et donc imaginez sur le plan technique la course poursuite qu'a le concessionnaire. Et en théorie, je crois qu'ils avaient calculé qu'un opérateur, un allumeur de réverbère devait pouvoir faire peut-être 10 ou 15 réverbères, mais pas plus. Donc il fallait plusieurs personnes qui se lancent dans cette affaire-là. Voilà. Alors aussi, la découverte dans ces archives, deux papiers à lettres. Bon, il y en a un qui a un nom que je connais, évidemment qu'on connaît, c'est Bruce, mais c'est Marius Bruce. Et l'autre... L'autre, c'est Félix Sanchet, et qui sont tous les deux ferblantiers et lampistes. Alors, honnêtement, je n'avais jamais vu ce métier-là à Saint-Antonin, bien sûr. Donc, ils fournissent, ils réparent les lampes, et ils retapent la ferraille, ils remettent des vitres quand c'est abîmé. Et donc, on voit leurs prestations, là, qui sont chiffrées. Tout le problème des papiers à lettres, je le dis au passage, c'est que, pendant très longtemps, on n'a pas d'adresse. On vous dit à Saint-Antonin, parce qu'effectivement, tout le monde sait où c'est à Saint-Antonin, sauf que nous, on ne sait plus où ils étaient. Donc, les papiers à lettres sont très flous, et on a mal fou à imaginer où pouvaient être localisés tous ces artisans. Alors, c'est pas uniquement cela. Hein. Moi, j'essaie de collecter un certain nombre de papiers à lettres sur des sites Internet. La plupart du temps, il n'y a jamais d'adresse. Par exemple, les pharmaciens, ben, ils sont pharmaciens à Saint-Antonin. Après, débrouillez-vous pour savoir à quel endroit ils sont réellement. Voilà, donc deux papiers à lettres d'artisans liés à l'éclairage, donc c'était des métiers. Voilà. Deuxième partie, où aurions-nous pu aller si tout d'un coup la municipalité avait accepté les propositions d'éclairage au gaz? Alors, cette affaire-là était placée un peu sous les radars parce que ça n'a pas été débattu en conseil municipal, donc dans les délibérations de conseil, on ne parle jamais d'éclairage au gaz. Il fallait aller voir le fameux carton 104 pour trouver effectivement les propositions des éclairagistes. Alors le grand argument de ces sociétés, c'est vous êtes une grande ville, il faut être comme à Paris, il faut adopter l'éclairage au gaz. Donc ça fait partie des arguments. Alors il y a des présentations que vous trouverez sur Internet bientôt. Il y a des présentations qui font une page, où il faut acte de présence, il y en a d'autres où c'est déjà très détaillé avec des contrats. Et celui qui est là, donc Monsieur Georgi, il a dit effectivement, il y aura une usine à gaz. Hein, donc on avait prévu de construire une usine à gaz donc dans la ville. Alors ne me demandez pas où, parce que c'est pas allé jusque-là, mais ça faisait partie de l'équipement de toutes les villes. Toutes les villes importantes avaient une usine à gaz, et puis ensuite il faut imaginer un réseau souterrain de conduite de gaz. Donc c'était pas une petite affaire. Alors la société du gaz liquide courant, donc elle a sa proposition que vous verrez, je vous les lis pas. Hein. Donc vous avez ici la Société Générale des Eaux et Gaz de France. qui fait des relances régulièrement en disant on vous a fait des propositions, vous devriez vous intéresser à ce qu'on fait, pour crédibiliser la présentation, l'équipe qui est dans la Société Générale des Eaux et Gaz de France, il y a un marquis qui sert un peu de caution politique. Ça fait toujours bien d'avoir quelqu'un à particule dans des propositions commerciales. Un autre qui est Capian Frère à Paris, donc celui-là a une proposition innovante, il est capable de faire du gaz sans une aiguille à gaz. Donc il faudra aller regarder en détail. Bon, pour aujourd'hui, j'ai... Donc les frères Capian, un autre Bourbon-Lancy, donc de l'année ingénieur. Oui, les propositions ne manquent pas, hein, tous viennent démarcher le conseil municipal. Et enfin, Louis Rougeant est à Paris et Groillet, donc il est en crage local, il vient aussi faire sa proposition. J'ai trouvé dans le carton 104 cette photo de la ville. Qui est très poétique. Le seul problème, c'est que je ne sais pas comment c'est éclairé. Il n'y a aucune date, il n'y a aucune mention. Donc, je ne sais pas si c'est encore le pétrole, si c'est l'électricité. Mais en tout cas, la double photo m'a paru assez belle pour que je vous en fasse profiter. Enfin, les deux derniers, Élie Gauguin, encore un Parisien. Et enfin, un autre à Paris, mais lui présente plutôt un mélange de pétrole et de schiste, on dit. Donc il n'y a pas le gaz au sens traditionnel comme dans les villes. Donc tout ce monde-là vient avec force proposition. Le système Luchère, il y a plein de médailles d'exposition, ce qui permet de vanter la qualité de l'entreprise. Bon, dans tout ça, finalement, la mairie n'aura pas donné suite, mais ça fait partie quand même des... On est en 1895-1898. Et c'est quand même quelque chose, la pression est mise, c'est normal pour le gaz, c'est toujours utile. Alors, revenons maintenant au contexte français. Donc, vous avez par exemple cette image qui est assez connue, c'est en 1844, donc on illumine la place de la Concorde avec l'électricité, donc on est très tôt, hein, et on a fait un arc électrique qui a permis de faire... cet éclairage sur l'obélisque et les fontaines. Évidemment, c'était un coup ponctuel, ce n'était pas une réalisation permanente, mais l'électricité, ça ne date pas hein, de 1900. Les expositions universelles ont joué un très grand rôle. Donc, en 1881, il y a une exposition internationale d'électricité, donc c'est la grande vignette que je vous ai montrée déjà avec le palais de l'industrie qui est éclairé, on dirait, à journaux maintenant, de nos jours. Et puis, par exemple, en 1895, plus près d'ici, à Bordeaux, vous avez une exposition où on vante aussi toute l'électricité donc dans la ville, dans les applications, etc. etc. Donc, on est presque dans l'art nouveau, on est dans la modernité. La médaille qui est en bas, c'est la médaille de l'exposition internationale d'électricité délivrée par le jury du Palais de l'Industrie. Deux autres images. Alors celle qui est en noir et blanc, je l'ai retenue. Alors elle est pareille, elle est de la même époque, elle est fin 19e siècle. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle est, j'ai pas de pointeur, mais on y voit, outre l'électricité, on voit un mot important, force motrice. Parce qu'il ne faut pas oublier, on verra que l'électricité, ça sert aussi à faire tourner les entreprises, les usines, et donc ça n'est pas uniquement éclairer les rues ou éclairer les particuliers. Et enfin, on retrouve le sieur Robida à droite avec sa publication qui s'appelle « Le XXe siècle », qui est paru en 1900, où il fait sur le thème de la vie électrique quasiment de la science-fiction, en montrant tout ce qu'on pourra faire avec l'électricité qui arrive. Donc, on est dans un climat extrêmement favorable, c'est vraiment à la mode, on en parle dans toute la presse, les expositions abondent en démonstrations, les scientifiques se réunissent pour échanger sur les techniques, les avantages, les innovations, etc. Donc dans Saint-Antonin, puisque c'est le cœur du sujet, je vais aborder successivement les différentes compagnies électriques qui sont venues à Saint-Antonin, et vous allez voir que c'est un vrai feuilleton. On va parler aussi du Saut du Loup, hein, donc qui est aussi quelque chose qui n'était pas trop connu. On va parler de là où était produite l'électricité, c'est-à-dire les ondes, le Martinet aussi et le réseau de Fontalès aussi. Monsieur Gabriel Dumas, dont vous avez vu le dessin du papier à lettre tout au début, qui est le premier concessionnaire et qui est installé à Fontalès, qui vient de Limoges. L'évolution des abonnements, on a quelques statistiques. Des insatisfactions permanentes, alors c'est un euphémisme de dire, hein, dans les conseils municipaux, ça rouspète en permanence, et donc c'est des contentieux permanents entre la municipalité, évidemment, et les abonnés, et les compagnies qui produisent l'électricité et qui rament, et des fois avec des mois et des mois sans courant électrique. Et enfin, un dernier mot sur l'électrification rurale, les écarts, justement, qui seront les derniers servis, et on expliquera pourquoi rapidement. Alors, la première proposition qui est faite en 1899 pour l'électricité est faite par la Compagnie électrique du Midi, donc avec le marquis de Thauriac, qui est à Toulouse, et ils viennent dire à la mairie, ben, on est prêt à vous éclairer, et voilà un début de contrat juridique, on installe tout et puis vous nous payez un abonnement et puis après temps par lampe, etc. Et ça doit fonctionner comme ça. Une deuxième proposition arrive aussi à la même date en 1898. Victor Fournier, il est aussi de Toulouse et sa particularité à lui, c'est qu'il veut desservir en même temps que Saint-Antonin, Caussade et Sept-Fonds. Donc il a des ambitions et donc évidemment, tout ça, bien sûr, n'aboutira pas. Donc, ces deux premières propositions ont lancé un peu la machine, et c'est là que le maire Paul Capin a commencé à réfléchir en 98-99, et si on passait aussi, nous, à l'électricité. Alors, la chronologie, je ne rentrerai pas trop dans les détails parce que c'est trop long, mais la chronologie commence donc par 98 projets pour la desserte de Saint-Antonin. Ensuite, un monsieur Baron vient faire aussi des propositions un peu dans le même genre que l'autre. On s'installe, vous nous payez un abonnement et on fonctionne comme ça. Monsieur Mourou sera aussi un autre ingénieur de Toulouse qui vient aussi faire les mêmes propositions. Et enfin, quatrième épisode, monsieur Dumas, Gabriel Dumas, fait une proposition pour la concession de l'électricité. En 1904-1905, il est retenu par une délibération du conseil municipal qui est approuvée après des navettes par le préfet, parce que c'est le préfet en fait qui dit oui ou qui dit non hein, dans cette affaire-là. Et donc Dumas va équiper la ville donc pendant les premières années donc de la décennie. Et puis 1910, déjà ça commence la valse. Monsieur Dumas a des problèmes, il a du mal à y arriver, etc. Donc, il vend la concession donc à la Compagnie départementale d'énergie électrique qui s'est créée dans le Tarn-et-Garonne, qui a aussi d'ailleurs essayé de séduire Fenerols, mais finalement, avant que l'éclairage se fasse à Fenerols, la Compagnie départementale d'énergie électrique avait fait faillite. Donc, la particularité, c'est que la concession passe à une compagnie, mais Dumas reste toujours le responsable sur place. Donc, c'est donc lui qui prend tous les coups. Hein, donc à chaque fois que ça marche pas, donc c'est vers lui qu'on se tourne, et la responsabilité de l'exploitation, on pourrait dire le directeur d'exploitation, c'est Dumas. Et comme il avait vendu sa concession et qu'en 1921 il a toujours pas été payé en totalité puisque la compagnie départementale fait faillite, finalement il fait envoyer l'huissier, il se réinstalle dans l'immeuble. Il fait changer les serrures et il reprend la gestion du réseau parce qu'il estime qu'il a été lésé. Ensuite arrive la compagnie départementale ayant fait faillite. Dumas est dans une position, sur le plan juridique, quand même un peu bizarre. Hein, c'est pas parce qu'on y va avec l'huissier qu'on est juridiquement assuré. Donc l'Union électrique du Tarn vient pour proposer une concession faisant miroiter une grande usine électrique qui serait installée, je ne sais plus trop, dans le Tarn. Et puis, en fait, elle fait à nouveau faillite. Donc, en 1928, c'est la Compagnie du gaz et de l'électricité de Gaillac, donc qui vient aussi faire des propositions. Mais alors, elle estime, elle, que du coup, elle a pris la concession, mais en fait, juridiquement, la cession n'a jamais été reconnue par la municipalité, et donc on est dans la situation d'avant, c'est-à-dire que c'est toujours Dumas qui assure qui fait tourner la machine. Et enfin, 1928, on va changer de braquet. Dumas, qui en fait est en train de s'user sur cette affaire-là, cède, après une négociation estimée à 260 000 francs, à la Compagnie pyrénéenne d'électricité tous ses actifs. Donc c'est, cette fois-ci, il n'est plus rien. C'est la Compagnie pyrénéenne qui va gérer toute cette affaire-là. Alors, un petit mot sur la Compagnie pyrénéenne, qui est une société anonyme à Paris et à Toulouse, qui va gérer le courant électrique à Saint-Antonin jusqu'à la nationalisation avec EDF en 46. J'ai fini par trouver une étude faite par un géographe en 1931 qui analyse comment le courant électrique est installé dans la plaine de Toulouse et les bordures des Pyrénées. En fait, pendant longtemps, les Pyrénéens savaient qu'ils avaient de l'énergie hydraulique, mais le courant électrique ne les intéressait pas. Et tout d'un coup, ce qui a déclenché l'intérêt pour le courant, c'est l'arrivée des chemins de fer qui ont été électrifiés. Et donc, s'il y a des chemins de fer électrifiés, on va leur vendre du courant et ça déclenche la mobilisation pyrénéenne jusqu'à Toulouse, y compris même jusque dans le Lot et jusque dans le Tarn-et-Garonne, puisque la pyrénéenne va s'étendre et elle va jouer un rôle très important. Et à partir de là, on n'a plus de contentieux. Donc, les débats vont passer sur un autre sujet, c'est l'électrification des campagnes. La Pyrénéenne a promis d'électrifier les campagnes gratuitement. Rapidement, on se rend compte que c'est pas du tout ça qui se fait, mais c'est là que tout d'un coup, on n'est plus en train de parler des coupures de courant, on est en train de parler de quand est-ce qu'on met le courant à Sainte-Sabine, à Servanac et au Bosque. Voilà, donc vous avez vu cette cascade de sociétés privées qui viennent toutes, alors on reviendra là-dessus à la fin avec un petit mot de conclusion, mais c'est l'instabilité, ça marche pas très bien, et donc c'est un vrai problème. Alors, l'autre découverte, alors ce n'était pas une pour les gens qui connaissent l'histoire, pour moi c'était une découverte, c'était la création d'une usine hydroélectrique au Saut du Loup. Alors le Saut du Loup, je rappelle pour les personnes qui ne savent pas très bien où c'est à Vieilfour, hein, donc un peu plus bas que Mangiocarne. À cet endroit-là, la rivière se resserre un peu, il y a de la roche, et tout d'un coup, tous les candidats, les premiers candidats jusqu'à Dumas, avaient dit « Nous allons faire une usine électrique au Saut du Loup ». Donc Dumas, vous voyez en bas, usine, article 3 du contrat de Dumas, usine à créer, le concessionnaire s'engage à faire édifier à ses frais une usine hydroélectrique au lieu dit le Saut du Loup. Alors, c'est le site que vous voyez là avec la carte postale, donc on est tout près de la voie ferrée, il y a de la roche évidemment pas trop loin, et donc j'ai jamais vu les plans, parce que je crois qu'en fait il n'y a pas eu de plan. Il y a eu des devis, mais il n'y a pas eu de plan. Donc le Saut du Loup avait avancé, puisqu'on avait projeté une chaussée de 3 mètres, hein, qui allait de la voie ferrée à la rive gauche. On avait prévu une puissance de 150 chevaux, à titre de comparaison au Moulin des Ondes. Après, quand on va exploiter le Moulin des Ondes, la puissance est de 60 chevaux. Donc, le site de Vieilfour a été submergé, le devis était fait, hein, ça n'a pas abouti, peut-être parce que d'une part, on était loin de la ville quand même. Il fallait tirer une ligne à moyenne tension. À l'époque, on faisait pas des très hautes tensions comme maintenant. Et puis, vraisemblablement, les riverains ont refusé de vendre leur terrain. Et comme il fallait leur accord, ça ne s'est pas fait. Alors, le système technique qui va produire l'électricité dans la période, il va comprendre finalement le moulin des ondes qui va être loué. Hein, c'était un moulin, vous le savez, un moulin bladier. Hein, on travaillait le blé. C'est un moulin qui est loué pour produire le courant et il va être partagé entre le meunier et l'exploitant André Dumas. Donc vous avez évidemment la photo de maintenant que vous connaissez tous, avec la partie, la version moderne du Moulin des Ondes, et puis vous avez une photo en dessous qui est de Truta, qui vous montre le moulin tel qu'il était à cette époque. Donc la première production, donc, c'est le Moulin des Ondes. Ensuite, l'énergie hydraulique, c'est un peu comme les éoliennes. Hein. De temps en temps, il n'y a pas de courant, hein. il n'y a pas de vent, il n'y a pas de courant. Ou il y en a trop, donc on ne peut pas produire d'électricité. Donc à Fontalès, donc Dumas va rééquiper l'ancien moulin qui était en ruine. Hein. Quand on voit les photos d'Amélie Galup, on se rend bien compte que c'était dans un état désastreux. Mais il va installer deux choses qui sont absolument indispensables. Une machine à vapeur, d'abord, et ensuite un moteur à gaz pauvre. Le moteur à gaz pauvre, c'est en fait le gazogène. Hein. Je vous rappelle quelques souvenirs très anciens de la guerre de 39-45. Le problème technique, en fait, c'est que quand tout d'un coup on ne produit plus le courant électrique à Fontalès, démarrer une machine à vapeur, ça ne se fait pas comme ça. Hein. Donc pendant le temps que ça démarre, il n'y a pas de courant électrique, ce qui explique les mécontentements réguliers. Ensuite, le moteur à gaz pauvre, bon, j'en ai trouvé un où celui qui est à gauche, là, au musée de la chemiserie à Argenton-sur-Creuse, l'usine était alimentée par un moteur de ce genre-là qui faisait tourner un alternateur. Ça démarre plus vite. Hein. Et Monsieur Lamotte m'a passé, vous voyez, la photo de la scorie en bas, c'est des scories de combustion des installations qui sont un peu partout dans Fontalès. Donc le moteur à gaz pauvre, il a une certaine puissance et rapidement les gens vont dire mais ça suffit pas, il en faudrait un deuxième générateur et il ne sera pas fait, la solution sera autrement. Le système technique, bien entendu, c'est des transformateurs des lignes à haute tension. Alors là, la carte de 1925 a été proposée par un nouvel opérateur qui voulait créer une interconnexion à moyenne tension entre le Moulin des Ondes et Limogne. Donc ce qui est en couleur, je suis désolé pour la luminosité, mais ce qui est en couleur, donc c'est la nouvelle ligne qui est proposée, et la compagnie prend... langue avec la mairie de Saint-Antonin en disant, vous savez, on va passer à Servanac, est-ce que ça vous intéresse qu'on desserve Servanac au passage? Le projet ne se fera pas, mais on voit déjà les prémices de la modernité qui va être l'interconnexion, et vous avez aussi un projet qui ne s'est jamais réalisé, récemment du côté du gravier, il y a un petit triangle en couleur au bord de la ligne, et ils avaient prévu d'installer une centrale thermique, donc récemment peut-être une machine à vapeur avec un. Donc on est en 1925 et la puissance qui était prévue était bien plus forte que le Moulin des Ondes et c'était fait pour alimenter effectivement du côté du nord du département. Le système technique, ça se termine chez les abonnés. Alors en 1920, il y a eu un audit qui a été fait par un cabinet. Qui a étudié toute la... Alors ce document-là sera aussi mis en ligne, qui a étudié tout le système de desserte de la ville, et il se termine en disant, bon, peut-être que les installations de production, c'est pas terrible, mais alors, chez les abonnés, état de délabrement qui dépasse toute imagination. Donc en fait, ce qu'on connaît à l'époque, c'est le vieux Saint-Antonin médiéval, c'est là qu'on met de l'éclairage. Il parle de rues très étroites où ne pénètre ni air ni lumière, l'humidité continuelle qui favorise les pertes de courant. Donc la chaîne complète, si vous voulez, ça commence pas très bien, mais ça finit très mal. Et on voit bien que tout ça forme une chaîne qui est pas forcément très très performante. D'où les plaintes et récriminations qui sont récurrentes, permanentes. Donc le conseil municipal demande l'installation d'un voltmètre, parce que quand on fait les factures, les gens disent « Ah, mais attendez, moi j'ai pas eu de courant électrique, donc il faut un voltmètre et un voltmètre enregistreur. » Alors, Monsieur Lamotte à Fontalès m'a ressorti de ses collections familiales cette ruine, donc qui était un ancien voltmètre enregistreur, donc avec une bande papier enregistreuse. Et elle m'a passé la photo, ça vous montre un peu les outils techniques de contrôle de l'époque. L'outil, d'ailleurs, dit quand le courant électrique fonctionne, il est de bonne qualité, mais c'est effectivement, il y a plein de moments où il ne fonctionne pas. Des coupures fréquentes, donc l'usine de Fontalès ne suffit pas à remplacer le moulin des ondes, d'où ce que je vous ai déjà dit, la demande d'un second générateur pour tenir compte de la demande qui va augmentant. Donc le réseau est vétuste, mais les contentieux avec les actionnaires, les concessionnaires sont énormes. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont leurs problèmes financiers, ils ont leurs problèmes de faillite, etc. Puis quand ils sont en faillite, le courant électrique à Saint-Antonin, c'est le cadet de leurs soucis, ce qui explique que dans certaines périodes, il y a des jours et des jours sans courant électrique. Il y a même une période, c'est 6 mois. Hein? Donc, jusqu'à la vente en 1928 de la concession de M. Dumas à la société pyrénéenne, toutes les délibérations du conseil municipal, c'est ça. On va le mettre en demeure à la compagnie, ça marche pas, c'est scandaleux. Enfin bon, sur cet écran-là, vous avez le papier à lettres de M. Dumas qui vient de Limoges et qui s'est spécialisé dans le courant électrique, l'achat de chutes d'eau, etc. Donc c'est une petite entreprise. Et puis vous avez les projets de contrat qui sont dans le carton, qui montrent exactement ce qui se dit dans ces relations très difficiles. Avant d'arriver aux écarts, je voulais un peu vous dire d'abord les lampes qui sont installées, c'est des 16 bougies. Alors, si autrefois quand on était gamin, on disait encore cette expression-là, on parlait de lampes de 20 bougies, etc. Alors j'ai cherché quel pouvait être l'équivalent. 16 bougies, c'est 55 watts. Donc, à Fenerols, il y a 8 bougies qui sont prévues, c'est 25 watts. Donc on est dans quand même un éclairage très peu important. Et c'est pour ça d'ailleurs que rapidement, les habitants vont dire il faut peut-être quand même penser à nous desservir et à nous amener la lumière. Pourquoi on n'aurait pas droit à la lumière? Donc dans les concessions, il y a plein de matières à contentieux, parce que qui est-ce qui remplace les lampes, qui c'est qui fait ceci, qui fait cela, etc. Donc on est vraiment dans... En 1926, les habitants réclament le courant électrique et une lampe électrique à la gare. Hein. Or, que répond la compagnie d'Orléans? Oh ben, on n'a pas les moyens. Hein. Donc, il va falloir que la mairie avance l'installation de la lampe pour que la compagnie dise « Oh ben, on va se rembourser en prenant une taxe, je sais pas quoi, si c'est sur les trains de nuit ou peu importe, mais enfin... Ça vous montre un peu aussi le système qui est quand même un peu archaïque. Alors, oui, je voulais vous dire à propos des abonnements, parce qu'en fait, on a quelques comptes qui ont été faits donc à des périodes bien déterminées. D'abord, en 1931, on passe à 200 volts. Hein. L'installation évolue quand même. Dans les abonnés, alors nous avons en 1910 l'éclairage public, finalement, l'éclairage total des consommateurs privés et publics, c'est 96 lampes. Hein? Non, 96 abonnés, pardon. 344 lampes, donc pour une commune qui à l'époque fait 2000 ou un peu plus de 2000 habitants. Et il y a un abonné pour la force motrice qui consomme l'équivalent de 24 chevaux vapeur. En 1914, ça monte, 229 abonnés, 879 lampes et 3 abonnés pour la force motrice qui consomme 60 chevaux vapeur. En 1917, les abonnés à la lumière... Le démarrage a été difficile parce que on est dans les années de guerre. Donc il y a beaucoup de gens qui sont mobilisés et les foyers qui sont mobilisés ne vont pas se lancer dans un abonnement de courant électrique. En 1931, 348 abonnés à la lumière, et pour la force motrice, nous n'avons pas de statistiques. Le conseil municipal, estimant qu'il faut remédier dans les plus brefs délais à ce mauvais état de choses, que son président de faire toute diligence nécessaire pour arriver à un bon résultat. Donc, dans ce but de concert avec le directeur de l'éclairage électrique, il sera procédé à la nomination d'un ingénieur qui vérifiera le matériel et l'installation et sera payé à frais communs par la commune et par le concessionnaire de l'électricité. Donc le débat va se déporter effectivement vers les écarts. Alors les compagnies avaient toutes promis plus ou moins de s'intéresser aux hameaux et aux villages qui sont aux écarts. Seulement les coûts d'investissement d'équipement sont longs parce qu'il faut tirer des lignes et on n'est absolument pas sûr que dans les villages ou dans les écarts il y aura des clients qui vont accepter donc de payer un abonnement. Alors ces histoires d'écarts sont aussi gérées en concertation avec l'État et l'État va avec ce qu'on appelle le génie rural, hein, donc va essayer d'inciter l'électrification des écarts, mais ça ne marchera pas très très bien. Si vous voulez, logiquement, l'électricité pour l'État, c'est vu comme une aide à l'agriculture. On commence à parler de labourage électrique, on commence à parler de mettre le courant électrique dans les élevages, et c'est pas du tout l'aide à la vie quotidienne qui est vraiment au centre du débat. Donc, la logique des écarts, là je vous ai montré la carte avec Servanac, et sur cette carte que vous verrez de près, si vous la téléchargez, on voit des petits traits qui vont de la ligne principale et qui s'en vont, par exemple, vers le Martinet, vers les propriétés qui sont un peu de côté, donc ça fait partie des demandes récurrentes. Alors, la situation va évoluer très tardivement, il y a beaucoup de pétitions ou de demandes. Les premiers à demander l'éclairage électrique, c'est ceux qui sont autour du pré. Donc ils vont faire une pétition que vous voyez là et que vous verrez avec à côté la liste des noms et des professions et des signatures des pétitionnaires. Il y a aussi une demande pour éclairer le secteur des tanneries, et je ne sais pas pourquoi, le conseil municipal, c'est lui qui donne le feu vert hein, pour toutes ces extensions, le conseil municipal délibère à propos des tanneries et finalement dit non. Alors je ne sais pas pourquoi, mais un autre quartier qui est concerné, c'est Teulière. Alors Teulière, donc je me suis renseigné pour savoir où c'est. Donc c'est en direction de l'usine des fours à chaux, donc la vieille route de Caussade. Et Teulière, ça évoque la Tuilerie qui se trouvait entre la route et l'Aveyron. Enfin, les habitants de Sainte-Sabine et de Salette en 1937 montent aussi au créneau pour réclamer le courant électrique. Donc les demandes sont pressantes et les habitants font des pétitions et même dans certains cas ils font le plan eux-mêmes et ils s'engagent à payer la lampe. Et donc les deux documents qui sont là dans les archives vous montrent la demande qui est faite près de la Vierge du Tour du Pré. C'est là où les habitants disent on est prêt à payer la lampe, mais il faut nous équiper, on a besoin de lumière. Au Martinet, sous l'impulsion de M. Joanny, qui est aussi une pétition en 1937, donc il y a une demande pour que tout soit éclairé, étant donné que dans ce coin-là, il y a des entreprises et il y a du mouvement. Alors, que fait la municipalité? Elle se retourne vers la compagnie concessionnaire, qui au début avait promis d'équiper les hameaux sans frais pour la commune. Donc en fait, La compagnie, évidemment, se fait tirer l'oreille et elle dit à la mairie, mais montez des dossiers pour obtenir des subventions et bénéficier des programmes du génie rural. Alors, en théorie, l'éclairage des écarts aurait dû coûter rien à la municipalité, mais pour que ça fonctionne, il faut en fait faire des emprunts. Alors, l'État ne subventionne pas trop, mais surtout l'État garantit que les emprunts seront à taux zéro, et la manière donc d'aider les communes à s'électrifier, c'est effectivement ces emprunts à taux bonifiés. Donc, ça dure très très longtemps, puisqu'en 1950, il y a une délibération encore qui parle de faire des emprunts pour desservir un écart de la commune de Saint-Antonin. Donc, ça n'avance quand même pas très très vite. En 1955, une délibération, ça sera la dernière que là je m'arrêterai, mais une délibération du conseil municipal dit l'éclairage public est qualifié de défectueux et insuffisant et il faut investir. Alors, l'éclairage de la ville se révèle actuellement défectueux et insuffisant afin de donner satisfaction à de nombreuses réclamations à ce sujet de la part des habitants de la localité et de nombreux touristes qui séjournent en saison dans notre ville. Il est envisagé de procéder à l'installation d'un système d'éclairage moderne et plus puissant. Le conseil municipal est entièrement favorable à cette amélioration de l'éclairage public et demande à M. le maire de bien vouloir faire établir, ou plutôt, un devis pour ce travail. Voilà, donc, même avec le progrès technique, même avec les investissements, on voit que l'éclairage reste toujours quelque chose d'assez difficile. Donc, l'État traîne les pieds, si je puis dire. Les communes sont fortement endettées en 1940. Les dépenses engagées par toutes les communes de France pour l'éclairage rural, c'était 8 milliards de francs. Et l'État, là-dedans, ne donnait que 3 milliards. Donc, on est vraiment dans un système où sont les communes qui sont en première ligne pour ce travail-là. Alors, en 1932, on crée des régies municipales. Donc, il y a 1163 régies municipales pour gérer l'éclairage. Il y a 1600 syndicats intercommunaux. Et en 1932, 80% des communes françaises sont électrifiées. Et 5 ans plus tard, 90% de la population est électrifiée, mais au prix d'un désordre technique, c'est-à-dire il n'y a pas de compatibilité entre le réseau, il n'y a pas d'interconnexion possible, les choix sont extrêmement différents. Donc ça avance cas un cas. Pour revenir sur cette affaire, sachant que tous les documents, vous pourrez les consulter réunis dans un dossier documentaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça a marché pas si bien que ça? En fait, quand on a les réverbères à cordes avec les lampes à huile, on a un système simple et robuste qui est peu performant, qui est coûteux certes pour la municipalité, mais on passe à un système complexe, fragile, performant et qui est gratuit pour la municipalité. Donc la complexité, c'est les ennuis, la fragilité, c'est les pannes, la performance techniquement est bien meilleure, mais le fait qu'il y a gratuité, en général, c'est synonyme de contentieux avec le concessionnaire, parce qu'effectivement, la commune n'est payée en rien, c'est le concessionnaire qui est prié de mettre la main à la poche, et dans certains cas, donc les discussions sont quand même laborieuses. Donc les avantages nouveaux seront vite oubliés et en fait il ne va plus rester que les inconvénients extrêmement discutés sans arrêt dans les délibérations de conseil municipal. Alors Monsieur Lamotte, qui est donc Fontalès, m'a dit la concession du mât a été prévue sur une durée trop longue parce qu'en fait on faisait une concession très longue pour ça permettait de donner des prix avantageux aux clients. Et elle est rédigée de telle façon qu'on donne des garanties solides aussi bien au concessionnaire, évidemment qui engage ses capitaux, qu'à la mairie. Mais quand on veut changer de concessionnaire, quand on veut vendre, comme ça sera le cas plusieurs fois dans les années 20, quand on est en cas de désaccord, ben, la concession est difficile à transmettre. Ça se voit avec le nombre de pages de la convention. Et puis à chaque fois, le trio concessionnaire dit ouais, vous m'en demandez trop. La mairie dit on en voudrait plus. Et la préfecture vient éplucher les contrats. Et en 1928, elle fera modifier le contrat qui était en gestation avec la société pyrénéenne et la commune de Saint-Antonin. Donc les conditions faites aux clients ont été trop favorables et donc la rentabilité ne pouvait pas être là. 50 ans dans la concession, mais en fait, quand on fait une concession aussi longue, ça veut dire qu'en tant qu'entreprise, on a besoin d'avoir énormément de capitaux. Hein. Il faut pouvoir tenir la distance. Et tous les concessionnaires qui sont passés, à commencer par Dumas et aussi les autres, peut-être un peu moins la société pyrénéenne parce qu'elle faisait partie d'un groupe, tous les concessionnaires avaient un capital limité, d'où les faillites qui sont en cascade. Donc on a une sous-capitalisation, alors que maintenant, c'est plus que des bougies hein, dans les réverbères, hein, c'est vraiment des réseaux, des alternateurs, des transformateurs, des compteurs électriques chez les abonnés, c'est vraiment une grosse machine technique. Les différents exploitants donc ont essayé de survivre, alors pour survivre, bah, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient le moins cher possible, d'où les problèmes de qualité. C'est-à-dire que quand il y avait une panne quelque part, bah, on traînait les pieds un peu avant de la réparer, il fallait vraiment que le conseil municipal dise on vous met en demeure, sinon on résilie la convention, pour que tout d'un coup les travaux puissent se faire. En 1910, il y a une grosse panne donc dans le réseau, et le concessionnaire dit ben j'ai pas pu réparer parce que les inondations de la Seine à Paris en 1910 ont complètement désorganisé tout l'approvisionnement en matériel, on n'a pas pu se faire livrer, etc. Et en répondant d'ailleurs à une question que m'avait posée Monsieur Lamotte, curieusement, les inondations de 1930 à Saint-Antonin n'ont aucun impact sur le réseau électrique. On n'en parle pas. Donc, j'ai trouvé ça étonnant parce que autant le quartier du Bessarel est liquidé, on doit se dire que les installations électriques quand même ont souffert, mais ça n'apparaît absolument pas dans les délibérations. Donc la production d'électricité produite aux ondes était bien trop faible. Le secours de Fontalès, la machine à vapeur ou le moteur à gazogène, c'était trop aléatoire. Donc on avait des problèmes récurrents. Dès qu'il y avait un incident aux ondes, ben, il n'y avait plus de courant dans la ville. Et donc ça a été vraiment quelque chose qui était, je peux dire, presque tous les ans. Quoi, hein. Il y avait une crue ou une sécheresse, c'était sûr que le courant électrique à Saint-Antonin n'était plus là. Alors en fait, ce qui va sauver tout d'un coup la concession et le courant électrique et la lumière à Saint-Antonin, c'est de toute façon l'invention de l'interconnexion qui arrive en 1928. Vous avez vu la carte que je vous ai montrée, le réseau de la compagnie qui veut relier les ondes, le gravier pour aller à Limogne. En fait, tout ça s'insère dans un réseau bien plus large. Et donc, avant cette époque-là, on était dépendant de la puissance en chevaux vapeur, si je puis dire, de Fontalès et des ondes, puisque c'était ce courant-là qui était distribué dans la ville, et donc manifestement, dès qu'il y avait un incident, ça fonctionnait plus. Avec l'interconnexion, on n'est plus obligé de produire le courant électrique sur place, on en produit et on peut le vendre à d'autres dans les réseaux, et quand on a passé, on achète aux autres. Donc on fonctionne, c'est toujours le système qui fonctionne. On a un système de vente et d'achat qui fait que, en théorie, en mutualisant les réseaux et les capacités de production, on a toujours du courant électrique. Dans les débats aussi qui sortent, l'exploitant des ondes est attaqué au conseil municipal parce qu'il a, une puissance de 60 chevaux vapeur, ce qui n'est pas beaucoup. Et curieusement, il a passé un contrat avec la compagnie des fours à chaud pour fournir du courant électrique. Et ce qui fournit à la compagnie des fours à chaud, c'est plus que ça. Et donc la mairie dit à l'exploitant, il faudrait peut-être choisir entre la compagnie des fours à chaud et nous, parce que ça peut pas fonctionner dans cette affaire-là. Alors, en terminant cet exposé, j'ai pas l'heure, alors je sais pas. Il y a cette heure, voilà. Donc pour terminer cet exposé, on est toujours dans les problématiques d'éclairage, on est toujours dans les dossiers d'actualité. Alors, d'une part, vous savez que Saint-Antonin a un label Citaslo, Cité du bien vivre, et les problèmes d'éclairage font partie des impératifs, des chartes de ce label-là, et donc il s'agit d'économiser l'énergie. Et donc pour économiser l'énergie, les choses sont là bien marquées. Changer les techniques, l'arrivée des LED a beaucoup changé la donne, puisque la LED permet de faire des installations beaucoup plus souples, beaucoup plus économes. Elle a d'autres inconvénients, la LED, c'est pas une solution miracle, mais en tout cas, ça permet d'avoir du courant électrique sur mesure. La deuxième modalité pour économiser l'énergie, c'est de moduler les éclairages selon les heures. Alors, beaucoup de communes, finalement, ont l'éclairage qui démarre effectivement en début de soirée, en début de matinée, et souvent, c'est le cas à Vaour, par exemple, dans beaucoup de communes, en fait, l'éclairage public est coupé complètement, parce qu'en fait, il n'y a personne dehors. Ou alors la solution c'est baisser l'intensité avec les LED, puisque les LED permettent de laisser un lumignon qui rassure, mais en même temps qui permet de diminuer la consommation. Et puis d'autres solutions sont aussi d'avoir un éclairage qui est coupé, mais qui est ranimé automatiquement quand il y a quelqu'un dans la rue. Hein. La présence, hein, c'est un peu comme un certain nombre de lieux publics, vous rentrez dans les toilettes, bon, la lumière s'allume, vous partez, la lumière s'éteint. Donc ça fait partie des solutions qui pourraient être adoptées pour économiser le courant électrique. Vous avez ici deux photos, l'une est une photo historique sur la place des Moines, qui vous montre en matière de pollution lumineuse ce qu'il faut pas faire. Vous avez ces lampadaires boules, hein. Vous le voyez, il y en avait deux, je pense qu'ils ont disparu maintenant, et qui avaient l'avantage d'éclairer aussi bien la Voie lactée que d'éclairer la ville. Donc maintenant l'éclairage, on demande d'éclairer au sol et non pas d'éclairer Vega, Vénus et la Voie lactée. Et puis vous avez une autre solution qui est là, hein. Vous avez des lampadaires encastrés dans le sol et qui en fait, pareil, éclairent tout en haut. Et donc, en fait, sont d'ailleurs assez éblouissants. Et ça fait partie des solutions qui sont maintenant bannies parce que, effectivement, l'éclairage n'est pas du tout là où il faut. Quant à valoriser les lieux majeurs, c'est pareil. Les sons et lumières, les mises en valeur de certaines architectures. Maintenant, il y a des solutions techniques économes. Donc, ça fait partie des enjeux. Quand on dit aujourd'hui et demain, ça fait partie des enjeux qui sont les nôtres. Et enfin, je terminerai avec une photo faite au début août au Roc d'Anglard. Vous avez Saint-Antonin Nobleval by night, hein, donc à 23h. Donc vous avez la ville, principalement les rues qui sont éclairées, et ça vous donne une idée de ce que représente la lumière. On n'est pas comme dans certains endroits où quand on s'approche de certaines villes, on est grand halo lumineux qui vous dit attention, vous allez arriver dans une ville extrêmement consommatrice d'énergie. Les lampadaires partout, la lumière partout. Là, il n'y a pas cet effet de halo, mais il y a effectivement une installation électrique qui est je ne sais pas si elle a à revoir, mais en tout cas qui fait partie des préoccupations que j'évoquais tout à l'heure. Donc, cette histoire de fait électricité, c'est l'arrivée de la modernité donc dans Saint-Antonin. Donc le débat au conseil municipal, quand il y a les propositions faites par les premiers concessionnaires à M. Capin, il n'y a quasiment pas eu de débat pour dire on n'en veut pas, on reste, etc. Tout le monde était d'accord. Ce qui a fait des débats, c'est sur les contrats eux-mêmes, parce qu'effectivement, dans ces contrats, il y avait des clauses qui pouvaient poser problème. Le Sceau du Loup, par exemple, le concessionnaire disait « moi je construis une usine hydroélectrique au Sceau du Loup, mais la commune est censée me fournir tout le terrain ». Donc c'est d'ailleurs pour ça que ça a échoué, mais c'était à la commune d'amener le foncier, hein, les autorisations administratives, pour qu'après le concessionnaire dise, Dumas avait dit « moi je fais l'usine et je vous loue pour 1500 francs par an ». Je vous loue le terrain que vous m'aurez confié pour construire cette usine. Donc les affaires sont par moments compliquées, mais ce qui est vraiment compliqué, c'est la mauvaise qualité du réseau qui a été compte tenu du fait des concessions, qui a été quelque chose d'assez difficile, pénible. Je pense que dans les autres communes, ça devait être pareil. Le maire, à l'époque, disait « vous savez, on a peut-être des problèmes, mais on paye le courant électrique bien moins cher que les autres communes. » Et ceci explique peut-être cela. Parce qu'à force de faire des prestations au rabais, à un moment donné, le manège de chevaux de bois, il tombe en panne, hein, et donc il n'y a plus de courant électrique. Donc il y avait, comme disait M. Lamotte, dans la conclusion finale, à force de tirer tout vers le bas, effectivement, on a des soucis. Un débat aussi qui va arriver près des abonnés, c'est la peau des compteurs. Parce qu'au début, il n'y a pas de compteur. Les gens payent à la lampe. Hein. Puis après, on se met à installer des compteurs avec l'allocation du compteur avec un forfait, puis ensuite la consommation. Donc c'est pas venu tout de suite, hein. C'est quelque chose qui a mis un certain temps. Ça a mis un certain temps quand les compagnies concessionnaires... Il y a les comptes là dans le document, quand les compagnies concessionnaires ont montré qu'elles perdaient d'argent. Donc elles avaient demandé régulièrement des hausses de tarifs. Parfois ils étaient très gourmands, alors la commune disait d'accord pour une hausse, mais beaucoup plus modeste. Et ensuite, le compteur a été une manière de relier l'offre à la demande. Voilà donc cette histoire de courant électrique. Donc je me suis arrêté à 1955, donc avec la délibération qui pointe encore la mauvaise qualité de l'époque. Bon, depuis, la mairie pourrait dire qu'il y a eu des travaux de fait, et puis il y a eu surtout, ce qui est important, c'est l'arrivée d'EDF. L'arrivée d'EDF, c'est une puissance de frappe complètement différente. C'est l'interconnexion, c'est aussi... des capacités techniques pour résoudre plein de problèmes, alors que les petits concessionnaires, en fait, ils n'avaient quasiment pas de cadre technique. Hein. Il y en avait très peu. D'ailleurs, dans une délibération, la mairie demande qu'à Fontalès, si possible, un technicien en permanence pour voir si ça marche. Donc ça veut dire qu'il n'y avait pas, et c'est quand on constatait, comme là, le micro, ça ne marchait plus, que tout d'un coup, on allait voir ce qui n'allait pas. Donc, entre-temps, effectivement, la prestation, les gens étaient mécontents. L'arrivée du courant électrique, ça a permis aussi la suppression des machines à vapeur les moulins. Alors, travaillant en ce moment en parallèle sur l'histoire de l'usine Rodelos, donc on voit qu'à un moment donné, M. Rodelos, là où il y a eu les pompiers, là, donc... dit, je n'ai plus besoin du moulin parce que maintenant je suis passé à l'électricité, donc je vous rends le flux de l'eau qui passe au moulin des Clostres et dans la Bonnette, puisque maintenant j'ai le courant électrique. Et si vous regardez bien en haut, au-dessus du canal, on voit les trois gros isolateurs où arrivait la ligne à moyenne tension qui faisait tourner la machine. Donc les entreprises se mettent aussi au courant électrique. Ça n'est pas neutre parce que du coup on a l'énergie enterrée toute l'année. On peut aussi travailler de nuit parce qu'on a de l'éclairage. Hein. Ça change complètement les conditions de travail et ça mènera d'ailleurs dans les grandes entreprises au 3-8, hein, parce qu'effectivement, avant on s'arrêtait quand il faisait nuit, tandis que maintenant on peut travailler quand il fait nuit. Voilà. Je ne suis pas trop rentré dans les détails techniques, je ne suis pas technicien. Moi, ce que j'essaie de mettre en avant, c'est les relations, les projets de civilisation entre l'arrivée du progrès, de l'électricité, les solutions qui sont apportées, et évidemment les aléas qui en découlent, mais aussi les satisfactions quand même, faut pas l'oublier. Donc tous les documents seront organisés au format, ils sont scannés, donc je vais, par exemple, la convention, elle fait 8 pages, donc je vais en faire un seul document. Je ferai un sommaire sur le site internet des vieux amis, donc il y aura la liste de tous les documents. Et si vous êtes curieux, donc vous pourrez aller voir les documents et voir un peu l'ambiance qui régnait en ce début de XXe siècle. Voilà.
Monsieur Perchet, j'imagine que maintenant à peu près 100% de la population est abonnée à EDF. Vous avez cité quelques chiffres. Ça représente quel pourcentage, quel nombre d'abonnés dans les premières années? C'était, j'imagine, très faible.
On est dans un contexte urbain modeste. Hein. D'ailleurs, l'audit de 1920 pointe la qualité du bâti, hein, en disant les gens vivent dans des taudis. Hein, donc, l'habitat médiéval, c'est pas comme il est retapé maintenant. C'était vraiment quelque chose de très archaïque. Donc, les seuls qui pouvaient s'abonner, c'était ceux qui avaient une activité économique et la bourgeoisie. Bon, pour le reste, on était resté encore à la lampe à pétrole. C'était pas forcément démérité, mais en tout cas, il y a eu petit à petit, avec l'élévation du niveau de vie, puis peut-être la modération des prix de l'électricité. Après, plus de personnes ont pu, mais c'était 96 abonnements. S'il y avait 2000 habitants, vous divisez 2000 par 4. Hein, hein, vous avez peut-être 500 foyers. Hein, donc, vous voyez à peu près le pourcentage. Alors, le nombre de personnes par foyer, c'est au pifomètre, hein, mais ça montre quand même à peu près le ratio.
Si on faisait un peu technique, là, il faut dire que jusqu'à l'avènement de DF en 46, les réseaux étaient très disparates, ouais, et nécessairement en technicité, parce que j'étais dans une école d'électricité dans les années 50, vous voyez mon âge, et on faisait un peu d'histoire du système de distribution. Il y avait peut-être 30 systèmes de distribution, avec des tensions du courant continu, ça c'est un peu tordu. Par exemple, le centre de Toulouse, jusqu'à... Je fais un stage à EDF dans les années 50. Là. Il y avait encore des câbles qu'on avait distribués en courant continu en 220 volts. On a mis du triphasé là-dedans et on distribuait entre phases, c'est un peu technique, hein, du courant alternatif sur des câbles de courant continu parce que c'était la centrale hydraulique du Basacle où il y avait des machines à courant continu qui alimentaient les tramways. Et la nuit, on faisait fonctionner. Et d'ailleurs, le début du rural a démarré en réalité par une société lyonnaise où un gars qui avait acheté, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui avait acheté un réseau de tramway électrique. Il y avait une centrale hydraulique qui faisait fonctionner le tramway dans la journée. Et la nuit, il avait eu l'idée de vendre l'électricité en rural. Alors, il bricolait sans doute parce que c'était pas les mêmes tensions, mais enfin, c'était des machines, c'est un peu technique, mais il s'est débrouillé pour faire déjà du rural dès 1906. Et à la fin de la Première Guerre mondiale, l'État a voulu développer le rural, et c'est ce qui s'est fait. Et cette société qui était montée, c'est curieux, c'est une des sociétés mères où j'étais employé après dans une filiale, et moi c'était à partir de 1965, mais qui avait donné naissance. Essentiellement, elle s'appelait l'énergie industrielle, qui a donné naissance en 1946, principalement à EDF. D'ailleurs, le PDG de l'énergie industrielle, c'était Pierre Simon, qui a été PDG de la première, le premier PDG d'EDF. Il était à la fois PDG de l'énergie industrielle, donc d'EDF, et puis de l'entreprise industrielle qui était la filiale qui est restée à l'EDF. Et tout ça, c'est des histoires complexes, mais techniquement, il ne faut pas oublier que EDF va d'abord apporter une question de sécurité, parce que vous n'avez pas évoqué la sécurité, mais c'était vraiment n'importe quoi, les vous l'avez dit.
Pour abonder dans votre sens...
C'était vraiment n'importe quoi, la distribution électrique.
Oui, mais pour abonder dans votre sens, d'abord, les réseaux électriques, c'était comme les réseaux de chemin de fer. Hein. On avait chaque compagnie de chemin de fer avait son réseau, hein, en France, en Europe, et on avait de la chance encore que les locomotives pouvaient passer sur le, parce que les rails étaient normalisés. Mais on avait les correspondances, enfin, tout ça, ça posait de grosses difficultés. Et pour la sécurité, alors, il y a tellement de points qu'on peut pas tout aborder, mais il y avait la demande qui était faite par les concessionnaires et aussi par les gens qui font l'audit, c'est d'installer, si possible, les disjoncteurs un peu partout dans le réseau, parce que quand il y a un problème chez un abonné ou près d'un transformateur, ça évite de couper le courant à toute la commune, hein, parce que c'était ça qui se passait. La société pyrénéenne qui en 1928 reprend le réseau et qui va tout d'un coup le stabiliser, elle s'était fait. Alors là, pareil, j'ai mis en ligne l'étude qui est publique de Monsieur Jauré sur le réseau électrique en 1931 dans les Pyrénées et la région toulousaine. Et le principe de la société pyrénéenne, ils sont spécialisés dans la desserte de communes résidentielles. Donc comme Saint-Antonin, donc ils achetaient auprès des concessions un peu partout, et leur fonds de commerce, c'était pas vraiment l'industrie ou le chemin de fer, ils en avaient peut-être, leur fonds de commerce, c'était d'amener la lumière aux habitants, beaucoup dans le Tarn-et-Garonne, dans le Lot, près de Toulouse, et donc c'était un choix commercial qui s'est avéré d'ailleurs payant, puisqu'après on n'a plus de plaintes de la part des abonnés.
Et un autre détail qui a son importance, c'est le saut du loup. Ça, c'est une question de géologie très certainement qui a arrêté les frais, parce que le saut du loup, ça doit être, en ce moment, ça doit se voir très bien, la rivière a une perte qui passe sous le lit très profond et une résurgence plus loin. Alors, aller faire un barrage là-dessus, c'était quand même assez...
Ça avait été étudié. Alors, ils avaient limité la hauteur de chute à 3 mètres parce que 3 mètres, on allait impacter le moulin des ondes. Hein, donc, on diminuait la puissance de chute. Donc, quand je suis allé pour le saut du loup l'année dernière, bon, on a quand même une assise rocheuse très importante. Mais alors, il y a tout le côté qui est en pente douce là, sur la rive gauche. Hein, moi, je connais pas la géologie, mais je suppose quand même, puisqu'il y avait un devis qui avait été fait, il y avait une compagnie qui avait fait les plans et le devis. Comment ? Oui, oui. Alors, c'est des documents qu'on n'a pas. Hein, tout n'est pas dans le carton 104, hein, mais il y a dû y avoir quelque chose, et je sais pas où on peut le trouver.
Deux mots à propos des réverbères à cordes. Premièrement, c'est notre association qui a restauré le réverbère à cordes qui est à côté du moulin à huile. Cela permettait, lors des visites du moulin à huile, de présenter ce qu'était le système d'éclairage, de dire « ne vous inquiétez pas pour ces boîtes métalliques fermées à clé, c'était uniquement pour accéder à la corde », et ensuite pour dire « lorsqu'on tire l'huile au moulin, l'huile de la deuxième pression, servait à ces lampadaires ». Deuxième point, le concessionnaire avait un contrat extrêmement rigide. Je lis, l'entrepreneur ou ses préposés devront faire les tournées nécessaires pour s'assurer du bon fonctionnement des becs après l'allumage. Il y en avait 17. Il sera soumis à une retenue de 50 centimes par chaque bec qu'il aurait manqué d'allumer, et à une retenue de 25 centimes pour chaque bec qui serait éteint avant l'heure. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de contrats de travail aujourd'hui qui ont ce type de...
C'est le contrat de travail qui a été publié dans le bulletin de l'année dernière, hein, c'est ça, hein?
2022.
Oui, 2022, bon, La municipalité était très contente parce qu'en fait, elle a essayé de déroger à la logique des appels d'offres parce que finalement, le concessionnaire de l'éclairage de Lampa Pétrole donnait satisfaction et donc on lui renouvelait son contrat sans difficulté.
Subjugué là. Merci pour cette intervention. Merci pour ceux qui ont enrichi le débat encore un peu et qui ont parlé d'EDF dont on n'avait pas beaucoup parlé. Et voilà. Merci à toi, Dominique. Bravo pour cette conférence.
Bon.
Il faut l'applaudir.